vers l'Esprit de Dieu. L'occultiste qui se contente d'étudier les lois de l'univers ne va pas savoir comment faire suffisamment de synthèse pour atteindre le même état de communion dont le mystique est capable. Et nous comprenons parfaitement sa situation, car en étudiant l'application des lois, le déroulement des lois de l'univers, il est normal qu'il arrive à tirer la conclusion que tout est séparé, même si l'on peut admettre que tout est complémentaire. Mais avant tout, tout est séparé et tout contient une énergie de début et de fin, de commencement et de dissolution. Automatiquement, dès que l'on regarde les énergies s'effectuer de la sorte, on est obligé de rentrer dans des conceptions, elles aussi, de début, de fin, de construction, de dissolution, de séparativité. Cependant, il faut avoir une double vision, la vision de l'univers et la vision du mouvement de la vie dans cet univers. Et ça, c'est complètement différent. Et il est très difficile de trouver en un seul homme ces deux genres de vision. Tout simplement parce que les hommes ont énormément de mal à être deux qualités à la fois. Ils arrivent parfois suffisamment à développer une qualité, par exemple la compréhension des lois de l'univers, ou bien la capacité de communion avec l'Esprit de Dieu. Mais ils arrivent rarement à pouvoir concilier les deux tendances parce que, en apparence, ces deux tendances sont complètement opposées. Celui qui est très mental et qui est capable de concevoir l'univers se dit « Mais je suis très mental, je ne vais pas pouvoir comme cela me lancer dans la foi, me lancer dans la prière, me lancer dans la contemplation. » Ça, ce sont des choses qui appartiennent aux gens du sixième rayon, aux gens de la religion. Cela appartient aux contemplatifs. Cela appartient à ceux qui n'ont pas suffisamment de cerveau pour comprendre l'alchimie de Dieu et la magie de Dieu. Moi, j'ai un cerveau, j'ai un mental, je suis une intelligence et je comprends l'alchimie de Dieu, le jeu des énergies de Dieu. Donc la contemplation, c'est pour les autres. Et ainsi, il avance dans l'étude. Et la joie qu'il a pendant qu'il découvre des mystères, pendant qu'il découvre l'explication de certaines lois, cette joie qui lui vient dans la poitrine, il la confond souvent avec la joie de l'évolution, comme s'il avait franchi un pas dans la conscience. Mais en fait, ce n'est qu'une joie mentale qui vient de la découverte par le mental d'un secret ou d'un mystère. Tandis que celui qui est mystique, celui qui ne va pas peut-être avoir suffisamment d'intellect pour imaginer ce que sont les chakras d'un logos planétaire, ou ce que sont les interventions de la hiérarchie, ou ce que sont les années-lumière, distance de l'espace, etc. Pour celui qui se trouve dans ce conditionnement-là, mais qui se sent tout à fait capable de regarder une fleur et soudainement d'y voir toute l'éclosion de la vie, pour celui-là, donc, la vérité va se résumer au fait qu'il faut simplement contempler Dieu partout et voir la marque de Dieu partout, la joie de Dieu partout, l'éternité de Dieu partout. Pour celui qui est à l'extérieur et qui n'est encore ni un occultiste, ni un mystique, et qui se demande gravement quelle voie il doit choisir en regardant les autres agir et vivre leur propre voie, pour celui-là, le choix devient très compliqué. Car celui qui est en dehors du chemin est un être beaucoup plus tempéré, beaucoup plus objectif que ceux qui sont entrés dans leur voie et qui se trouvent déterminés par le conditionnement de la voie qu'ils ont choisie. Celui qui n'est donc encore entré nulle part est à la limite beaucoup plus pur intérieurement que celui qui a déjà commencé à marcher quelque part. Tout simplement parce que celui qui n'est allé nulle part ne s'est pas fait d'idée sur ce qu'est la vérité. Il n'a créé aucun dogme à propos de ce qu'est Dieu, de ce qu'est l'énergie, de ce qu'est la lumière, de ce que sont les étapes de l'initiation. Il n'existe encore dans son mental aucun schéma, aucune étape. Il est simplement là et il dit à Dieu, « Eh bien, tu vois, moi je ne suis nulle part, je n'appartiens à aucun groupe, à aucune église. Si tu me veux, prends-moi et prends-moi comme je suis. Mais je te préviens, je ne sais rien faire. » Je ne sais même pas comment on prononce ton nom. Ce sont ces disciples-là qui intéressent le plus les maîtres. Au contraire de ce que l'on pourrait penser. Car les gens qui ont quelque étude ou un certain discernement vont penser que les disciples qui intéressent le plus les maîtres, ce sont ceux qui sont déjà dans la voie du mysticisme ou dans la voie de l'occultisme. En fait, les gens qui sont entrés dans leur voie respective sont des gens, non pas qui n'intéressent plus les maîtres, mais sont des gens qui ne sont pas manipulables par les maîtres. Car ils sont entrés dans une voie, ils ont choisi le dogme de cette voie, la tendance de cette voie, le credo de cette voie, le conditionnement de cette voie, et hors des conditionnements de cette voie, le maître ne peut pas les toucher s'il veut les toucher. Or là se pose un immense, un énorme problème. C'est que le maître qui veut toucher son disciple, pour ce maître-là, le problème va être de pouvoir être entendu du disciple. Or, le maître ne peut pas être entendu du disciple si le disciple fait un vacarme immense en se répétant à lui-même ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est dans la voie, ce qui n'est pas. Il ne peut pas écouter la voix du maître, car il entretient constamment sa propre voix. Sa propre voix qui lui dit « la vérité c'est ceci, la vérité c'est cela ». Les autres ne sont qu'à un niveau inférieur, ou les autres me rejoindront plus tard, ou bien d'autres sont au-dessus de moi. Tant qu'il y a cette agitation mentale, le maître ne peut pas toucher son disciple, même si son disciple mérite de rencontrer le maître. Donc, l'instrument même qui permet la construction du disciple, la construction de la grandeur et de la valeur de l'homme est l'instrument même qui va retenir l'homme dans sa petitesse. Et cet instrument, c'est la spéculation mentale. Si l'on prend un individu qui est au début de ses incarnations, de son évolution, un individu qui dispose donc très peu d'éléments mentaux, si l'on regarde, si l'on observe ce genre d'individu, l'on va voir qu'on pourra l'accuser d'être de petite évolution, tout simplement parce qu'il ne va pas être authentique, il ne va pas être lui-même, il ne va pas être un individu. Il va simplement, comme une fourmi à l'intérieur d'une fourmilière, suivre la vague de vie dans laquelle il est plongé. Il va systématiquement faire ce que font les autres. Il va systématiquement suivre les autres. Il va systématiquement honorer ce qu'honorent les autres. Et il va systématiquement renier ce que renient les autres. Et c'est un comportement qui se retrouve surtout au niveau social, notamment au niveau politique, notamment au niveau de la mode, notamment au niveau des idéologies. Il y a un effet de groupe et l'individu qui n'est pas encore suffisamment individualisé va faire ce que fait le groupe par influence. Parce qu'il n'a pas véritablement de jugement propre, d'idée propre. Il pense que ce qui est bien, c'est ce que pense le plus grand nombre. Alors il se range du côté du plus grand nombre. Une personne qui n'a pas assez d'individualité, qui ne connaît pas suffisamment l'état d'individualisation est une personne qui vibre essentiellement sur le plan astral et qui monte très peu et que de temps en temps sur le plan mental. Pour que donc son évolution ait lieu, il va falloir que la personne apprenne à s'installer complètement sur ce qu'on appelle le plan mental. À ce moment-là, et sur ce plan-là, tout ce qui est de l'ordre de ce que l'individu veut, de ce que l'individu ne veut pas, toutes ces choses-là sont largement expérimentées. Et c'est à ce niveau-là que l'individu construit ses désirs, construit ses volontés, se cristallise pour se constituer ce qu'on appelle véritablement une personnalité, avec ses tendances et surtout avec ses principes. Dès que l'individu est monté sur ce plan-là, étant donné qu'il y a cristallisation et fabrication de ses principes, l'individu, plus qu'à un quelconque autre moment de son évolution, l'individu va dire « moi, je ». Lorsque donc vous rencontrez quelqu'un qui est énormément cristallisé autour du « moi, je », c'est le signe que cette personne est en train de construire son individualité et sa capacité à expérimenter l'individualisation. Et au contraire de ce que pourraient penser certains disciples, il ne faut surtout pas casser l'élan d'individualisation de ces personnes-là. Si on cassait l'élan d'individualisation, on briserait par là même chez cet individu toute capacité de continuer son évolution. Autrement dit, il y a une porte étroite, une porte très difficile à passer au cours de la vie cosmique d'une âme. C'est la porte qu'est l'humain et précisément la porte qu'est son mental. Donc, le moment où il devient une individualité. Vous avez, et pour cela je vous propose d'imaginer le signe de l'infini, qui est un 8 couché, vous avez donc d'une part la conscience divine qui entre en incarnation et qui descend jusque dans la matière. Et à ce moment-là, on se trouve au centre de l'infini, à l'endroit où les deux cercles se pincent. À ce moment-là, il y a descente dans un statut, un conditionnement que l'on appelle la nature humaine. C'est le point d'individualisation, le point de cristallisation de la conscience de Dieu. Pourquoi est-ce que ce point est nécessaire? Comme je l'ai dit si souvent, ce point est nécessaire parce que la conscience de Dieu, si on la prend en termes de pure conscience divine, est une conscience, un point c'est tout. C'est-à-dire une conscience qui ne connaît pas de vie, pas de feu, pas d'animation, pas de puissance. Pour perpétuer son état, pour perpétuer sa vie, cette conscience a besoin de ranimer son feu. Et pour ranimer son feu, cette conscience doit descendre à l'endroit du feu, à l'endroit où donc par contraction de particules de conscience, une énergie incroyable est créé, et c'est l'endroit de la matière. Seulement pour vivre à l'endroit de cette matière, pour expérimenter les feux à l'endroit de cette matière, étant donné que cette matière est l'endroit de cristallisation, il va falloir que la conscience divine, qui est une et une seule, se divise et s'éclate en diverses particules. Diverses particules qui vont ensuite s'incarner une à une dans des instruments apparemment distinctifs et différents. Et lorsque cette particule de la conscience divine, une et une seule, se réveille dans des instruments distinctifs et apparemment différents, le grand moi-je de l'âme devient le petit moi-je de la psychologie et de la personnalité. Ce qui fait que toute vision d'universalité et d'unité devient assez difficile pour l'individu, car il n'a de notion d'unité que par rapport à sa propre vie, par rapport à ses propres feux et à ses propres centres d'intérêt. À ce moment-là, c'est-à-dire au moment où Dieu a atteint le stade humain et où il chemine lentement à travers l'individualisation humaine, à partir de ce moment-là, il s'agit pour Dieu non pas de devenir vraiment humain, et ensuite de créer des lois qui permettent à cet être humain d'évoluer, de redevenir Dieu à son tour. À partir de ce moment-là, il s'agit pour Dieu de savoir suffisamment bien intégrer les feux que contient la matière et de commencer sa libération. Autrement dit, et comme je le dis si souvent, il n'existe pas d'évolution. Il n'est pas question d'évoluer sur la Terre. Il s'agit de venir prendre des feux, et c'est ce qui vous est proposé lorsqu'au fur et à mesure des méditations et des initiations, vous vous trouvez en contact avec la Kundalini et que vous devez apprendre à maîtriser, à répartir, à rayonner cette Kundalini. Et à partir de là, vous devez aussi apprendre à vous libérer de la matière. Et c'est ce que le disciple croit être son devoir d'évolution. Mais en fait, il n'y a pas d'évolution à faire. Il y a tout simplement un individu qui doit apprendre à réveiller les feux de la matière dans laquelle il est incarné, afin que le Dieu qui s'est incarné en lui puisse se perpétuer, redécouvrir sa jeunesse et son éternité. Et ensuite, il faut apprendre à libérer ce Dieu qui est entré dans la matière. Et c'est à ce moment-là où, pour le disciple, il va y avoir des choses très compliquées, des choses qui paraissent toutefois être très ésotériques et très occultes. Mais enfin, il n'y a rien d'ésotérique. En fait, il n'y a rien d'occulte. Il n'y a pas d'évolution à proprement parler. Lorsque l'individu imagine qu'il a été jeté dans la matière par un Dieu qui a eu la grande grâce de lui donner vie. Lorsque l'homme s'imagine donc avoir été jeté dans la matière par ce genre de Dieu, et que ce Dieu en plus, pour épicer le jeu, a inventé des lois et a inventé une case départ, a inventé une prison sur le parcours, un peu comme dans un Monopoly, et qu'il s'agit au petit bonheur la chance de lancer des dés pour savoir celui qui va partir avant l'autre, savoir celui qui aura le plus de chance par rapport à l'autre. Pour celui qui imagine l'univers comme étant la construction d'un tel Dieu et la manifestation d'un tel jeu, forcément l'évolution va être vécue comme un passage de souffrance, de douleur, d'abnégation, de sacrifice, de martyr et de flagellation. Pour changer tous ces concepts, pour changer toutes ces tendances qui ne mènent nulle part, il faut que le disciple comprenne une bonne fois pour toutes qu'il n'existe aucun Dieu qui a fabriqué en beau jour des enfants. Ce Dieu aurait ensuite jeté ses enfants dans la matière. Et ce Dieu qui est perfide décide de jouer avec ses enfants un jeu très malsain. Un jeu où les enfants risquent de se perdre. Un jeu tellement malsain qu'il a, en plus des lois, inventé un diable qui tient l'homme par les pieds sur la terre et qui essaye de l'entraîner dans les enfers. Sitôt que le disciple imagine ce genre de vie, forcément le tableau devient très obscur.
Et pour un individu qui a atteint un développement mental suffisant, le jeu de Dieu devient par là même complètement inintéressant, absurde et de très mauvais goût. Et nous ne pouvons rien dire contre le genre d'athéisme qui est né dans l'esprit des gens développés et intelligents, car ils ont absolument raison. Et je dis que ce genre d'individu est beaucoup plus évolué que les mystiques et les religieux, car ils osent refuser un jeu qui n'est pas logique, un jeu qui ne peut pas être bon. Un jeu qui est faussé dès le départ, parce que le Dieu qui est dit comme étant un Dieu très bon a eu le mauvais goût d'inventer le diable. Donc pour l'esprit, ne serait-ce qu'un peu équilibré, un peu logique, normalement civilisé, pour ce genre d'individu, ce jeu-là est complètement inacceptable et ils ont parfaitement raison. Car ce n'est pas cela qui existe, ce n'est pas cela la vérité. Ce qui est la vérité, c'est qu'il existe un Dieu, un, qui s'incarne et se projette dans la matière en dégringolant à la suite d'une longue lignée de hiérarchies, ce qui lui permet d'atteindre le règne physique, et qu'à travers le règne physique, il trouve le moyen d'aller frotter sa conscience contre les feux de la matière. Exactement comme si vous, pour perpétuer votre vie, vous auriez besoin de creuser une mine pour aller trouver de l'uranium et que vous seriez capable de frotter votre conscience contre cet uranium pour en déclencher une énergie nucléaire. Et à ce moment-là, vous seriez rempli de vie, vous seriez complètement renouvelé et vous pourriez repartir pour un autre âge d'état d'être. C'est exactement ce qui se passe pendant l'incarnation de Dieu. Donc, chaque homme est non pas un homme évolutif, chaque homme est non pas le fils de Dieu qui doit peu à peu ressembler à Dieu et être le bon fils à papa. Il y a, et je voudrais que vous le compreniez une bonne fois pour toutes, car c'est cela qu'il faut comprendre avant de comprendre quoi que ce soit d'autre. Il y a un Dieu et un seul qui s'incarne pour se perpétuer. Et à un moment donné de son incarnation, il devient un être humain. Et pour être un être humain capable de retrouver sa dimension divine, il passe par l'étape que représente le mental. Ainsi, Dieu prend connaissance de lui-même. En prenant connaissance de lui-même, il peut sortir de sa condition physique et de sa condition humaine, qui est la porte de sortie du plan physique. Lorsque Dieu donc était dans des règnes comme les éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu, les cristaux, les fleurs, les animaux, etc. Tous ces règnes-là étaient des règnes d'emprisonnement, des règnes desquels on ne pouvait pas sortir. Il fallait tout simplement vivre les règnes les uns derrière les autres. Et il y a un règne clé qui est une véritable porte de sortie pour Dieu. C'est le règne humain. Et c'est pour ça qu'il n'y a que dans le règne humain que l'on parle de libération. Dans les autres règnes, on ne parle pas de libération, on parle de cristallisation. Car il s'agit pour Dieu de d'un tout autre programme. Il s'agit pour Dieu justement de cristalliser sa conscience pour créer des feux, pour créer la matière, afin qu'elle lui donne son feu. Mais une fois que ce feu a été créé, il ne faut plus rester dans la cristallisation. Alors il y a une porte de sortie fantastique et formidable. Et c'est comme cela que vous devez vous imaginer. Si vous vous imaginez comme étant le Fils de Dieu qui petit à petit va devenir l'héritier de Dieu, et un jour, si Dieu le veut, une grande entité dans l'univers, capable de plénitude et d'éternité, vous vous trompez complètement sur votre condition. Vous êtes la porte de sortie de Dieu. Vous êtes donc ce point de connexion inimitable et fantastiquement beau, un point de connexion entre les règnes de la cristallisation et les champs de la liberté, où Dieu va avoir enfin le temps et le droit de se retrouver lui-même et de se vivre tel qu'il est vraiment. Mais ceci, bien sûr, ne peut se passer que si la conscience de Dieu, qui a été plongée dans tous les autres règnes de cristallisation, arrive à un certain mode de prise de conscience de soi. Simplement, lorsque la conscience vient des règnes de cristallisation, la première identification dont elle sera capable, ce sera justement de s'identifier par rapport à la cristallisation que représentent ses premières personnalités. C'est pourquoi les premières prises de conscience dont sera capable la conscience évolutive, les premières prises de conscience seront tout au niveau de la conscience psychologique, du « moi-je », « moi j'aime ceci, moi je n'aime pas ceci, moi je veux faire ceci, moi je ne veux pas faire ceci, moi j'aime papa, mais je n'aime pas maman, j'aime mon voisin, mais je n'aime pas ma voisine, je veux devenir coiffeur, mais je ne veux pas être ingénieur. » Ce sont tous ces paramètres qui sont considérés au début par la conscience, parce que la conscience est beaucoup trop identifié avec les concepts naissants du mental que l'on appelle à ce moment-là le mental inférieur. Et c'est à ce moment-là où celui qui s'éveille quelque peu pour être un disciple rencontre tous les problèmes de sa volonté personnelle en face de la volonté de Dieu et la volonté de son âme qui réclame toute autre chose. Si donc cet instrument qu'est le mental est absolument nécessaire pour que la conscience qui a vécu pendant un certain nombre de temps dans les règnes de la cristallisation prenne enfin conscience d'elle-même et construise sa libération, si cet instrument est nécessaire, il ne faut pas que l'individu se satellise autour de cet instrument. Sinon, il demeure simplement au niveau de l'identification, et pas n'importe quelle identification, car s'il s'agissait de s'identifier avec Dieu, ce serait très bien. Mais dans le cas de la vie du mental inférieur, la conscience n'est capable que des identifications avec l'environnement. Et c'est là où le drame tombe sur la tête de l'individu. Parce que s'il y a identification avec l'environnement, cela veut dire que la conscience ne va se rendre compte et ne prendre pour règle de vie ou pour objet de vie que les choses qu'elle voit à l'extérieur. D'où immanquablement la tendance à s'attacher aux objets. Autrement dit, l'attachement aux objets, l'attachement à certaines activités, que ce soit la sexualité, l'ambition, l'argent, le besoin de gloire ou quoi que ce soit d'autre. Cet attachement n'est que le fait d'une cristallisation, d'une conscience qui ne croit que ce qu'elle voit dans son environnement. Tout simplement parce que sa vue, là il ne s'agit que de la vue, parce que sa vue est projeté à l'extérieur et ne peut pas contempler le royaume intérieur. Et c'est là qu'intervient le karma ou tout simplement le redressement de ce genre d'erreur par la loi. Et à force d'être redressé par la loi, la conscience finit par retirer son regard de l'environnement pour le fixer en elle-même, à l'intérieur d'elle-même. Et à ce moment-là, ce qui était la vue devient vision. Autrement dit, quand Vous vivez à l'extérieur, quand vous concevez l'extérieur, votre environnement, votre vie psychologique, affective, professionnelle, etc. Sachez que votre conscience n'est capable que de la vue. Donc, elle ne fait que contempler l'extérieur. Et elle le fait par le phénomène de la vue. Tandis que dès que vous vous dégagez de ces liens, de ces attaches, et que vous mettez une certaine distance entre vous et les objets, votre conscience devient capable de la vision intérieure. Et c'est là où le disciple devient ce que l'on appelle vraiment un initié. Lorsque la conscience n'est plus occupée à regarder les choses extérieures, quand la conscience donc n'est plus une vue, mais quand la conscience devient une vision. La vision, c'est ce qui pourrait être produit si l'on imaginait un soleil qui cesse de rayonner à l'extérieur et d'enrouler ses rayons autour des arbres parce que l'arbre lui plaît. D'enrouler un autre rayon autour d'une fleur parce que la fleur lui plaît. D'enrouler un rayon autour d'une femme parce que la femme lui plaît. Puis d'enrouler les rayons autour d'une voiture parce que la voiture lui plaît. Puis d'enrouler un autre rayon autour de la profession parce que la profession lui plaît. Enrouler un autre rayon autour de l'argent ou autour de la gloire ou autour de la fierté ou autour de la beauté physique, etc. Imaginez un soleil qui vivrait de la sorte, qui sort tous ses rayons à l'extérieur et qui enroule comme une pieuvre, enroule ses tentacules, qui enroule tous ses rayons autour de tous ces objets qui sont dans l'environnement. En peu de temps, ce soleil n'est plus un soleil, ne peut plus représenter la figure du soleil. Ce soleil ressemble véritablement à une pieuvre. C'est-à-dire une sphère, une grosse tête, qui envoie ses tentacules de partout et qui accroche tous les objets qu'elle rencontre sur son passage. Et c'est à ce moment-là que l'on dit que l'individu est astral. Mais en fait, la conscience ne peut jamais être astrale. La conscience est pure divinité. Simplement, si elle accroche ses rayons autour de tous les objets de l'environnement, automatiquement, la conscience perd sa forme d'un soleil radiant, ne devient plus qu'une boule et des tentacules qui s'accrochent à l'extérieur. Et ainsi, tout son rayonnement, toute son énergie se trouve complètement dilapidée, avalée par les objets extérieurs. Et en peu de temps, le soleil qui avait commencé à vivre de façon lumineuse, qui était blanc ou couleur or, au bout de quelque temps, ce soleil devient noir, opaque, triste, lourd. Il n'a plus aucune énergie, parce que son énergie est toute allée à l'extérieur. Et les objets qui ont suscité son intérêt, les objets autour desquels cette conscience s'est entourée, ces objets mangent son énergie. Donc, pour que ce soleil noir redevienne un soleil blanc, et surtout pour que de pieuvre qu'il est devenu, il redevienne un vrai soleil, il faut que ce soleil, peu à peu, rétracte ses tentacules et bascule dans la conscience vers le haut. Imaginez, pour comprendre ce que je dis, un soleil qui aurait donc basculé vers le bas, qui aurait envoyé ses rayons partout dans la matière, partout sur les objets et qui se serait accroché à ces objets. Pour être un disciple ou pour être un initié, il faut faire le mouvement inverse. Il faut petit à petit desserrer les tentacules, ouvrir les bras, donc redonner l'aspect rayon à ce qui n'était devenu que des tentacules, redonner l'aspect rayon et au moment où le rayon est de nouveau créé, basculer le soleil, de façon à ce qu'il retrouve le contact avec la vision idéale, avec le grand soleil archétypal qui, lui, est resté dans l'univers, qui continue à constituer le royaume. Donc, quand vous parlez d'évolution, quand vous voulez imaginer quoi que ce soit à propos de l'évolution, n'imaginez pas que vous êtes un petit homme qui est sorti un beau jour de la planète Terre, à qui on a donné par grâce une âme, et que cette âme est en train de se battre avec sa personnalité qui dit « Je ne veux pas, tu n'y arriveras pas, tu resteras avec moi, tu n'iras pas vers Dieu. » Et qu'ensuite, à la fin de ce long combat, l'âme finit par gagner parce qu'elle est veillée par les maîtres, parce qu'elle est veillée par Dieu lui-même, et que ses maîtres, très contents, ce Dieu, très content du combat qui a été remporté, vient ensuite chercher l'âme, la couronne, l'habille des vêtements du roi et l'emporte se reposer au paradis. Le système n'est pas du tout comme cela. Le système, c'est un Dieu unique, très grand, qui s'incarne et qui doit repartir de l'incarnation. Et la porte de sortie, je le redis, je le répète, la porte de sortie, ce ne sont pas les anges. La porte de sortie, ce n'est pas une hiérarchie quelconque, ce n'est pas même l'évolution. Tout ça, ce ne sont que des effets seconds. La porte de sortie, c'est l'être humain. Donc l'homme, en tant que conditionnement humain, en tant que psychologie, en tant que disciple. Si l'homme a un devoir, ce n'est pas vis-à-vis de lui-même. Et c'est là où les disciples se trompent, parce qu'ils se disent « Je dois évoluer. Je dois aller retrouver Dieu. Je dois aller pratiquer ma méditation pour obtenir mon initiation. Je dois lever ma kundalini, je dois ouvrir mes chakras, je dois devenir beau, grand, intelligent. Je dois devenir divin, c'est la loi. Mais à celui qui pense comme ça, je lui demande, je te le demande, arrête-toi une seule minute et observe ta pensée. Qu'est-ce que tu es en train de penser ? Tu es en train de penser que tu dois évoluer. Mais qui t'a dit que tu devais évoluer ? Personne. Personne. La première chose que l'on t'a dit, c'est qu'au contraire, tu es fait à l'image de Dieu. Alors pourquoi est-ce que tu cherches l'évolution ? Puisque tu es déjà créé à l'image de Dieu. Ensuite, tu me dis que tu dois ouvrir tes chakras. Très bien. Tu veux ouvrir tes chakras, tu veux faire monter ta kundalini, tu veux contempler la lumière dans la tête, et je ne sais quoi d'autre. Mais qui t'a dit que toutes ces choses existaient, que toutes ces choses étaient nécessaires ? Toutes ces choses arrivent de surcroît lorsque tu fais un petit effort d'ouverture. Tu n'as pas besoin de travailler sur ta kundalini, de travailler sur ton chakra, d'absorber des substances pour préparer tes molécules à ceci, tes cellules à cela, tes chakras à autre chose. Toutes ces choses se font naturellement au fur et à mesure. Si tu admets avant tout que tu es à l'intérieur un Dieu, et qu'en tant qu'être humain, tu es la porte de sortie pour ce Dieu hors de la matière. Et c'est pour cela que ton rôle est si difficile. Parce que tu as une double fonction. Dans un premier temps, collecter toutes les informations qui sont venues grâce au passage dans les divers règnes, dans la cristallisation des divers règnes. Donc pendant un certain temps, tu dois toi-même continuer à être le lieu d'une certaine cristallisation. Puis d'un seul coup, tu dois tout changer. Comme le 8 se pince au centre et repart pour faire un autre cercle. Tu dois tout changer, tout renverser et devenir Dieu et être capable de libérer ton Dieu intérieur. Pendant un certain nombre d'âges, tu as appris à être ce cercle qui devenait de plus en plus petit, qui allait se fermer, se fermer, se fermer pour rencontrer le centre du symbole de l'infini. Et lorsque tu es au centre, la tendance naturelle te porte à continuer à te cristalliser. Cependant, il ne faut pas continuer. Il faut au contraire démarrer une autre ouverture pour que le deuxième cercle de l'infini se fabrique. Et cette autre ouverture, c'est la libération. Donc, si tu veux être un disciple, que ce soit pour te servir toi-même, ou servir les maîtres, ou servir Dieu, ou pour servir les autres hommes, si tu veux être un disciple, si tu veux avoir une quelconque réalité dans l'univers, attache-toi à te libérer toi-même. Tu ne peux libérer personne si tu ne te libères toi-même. Tu ne peux aider personne que si tu n'arrives pas à concevoir, à comprendre, à imaginer ces concepts de liberté. Et si tu n'arrives pas, en les ayant imaginés, à les faire comprendre aux autres. Donc, le premier travail du disciple, le premier travail de celui qui veut vraiment servir la hiérarchie, ce ne sera pas de créer un groupe, créer une religion, créer un dogme, une lignée initiatique, des credos, fabriquer des longues robes pour recevoir un magnifique rituel, un rituel alchimique, afin que les hommes puissent construire leur divinité. Celui qui veut vraiment servir la lumière et être l'endroit de la lumière va devoir une bonne fois pour toutes comprendre que ce qui est la lumière, c'est avant tout la libération du Dieu intérieur. Ensuite, pour que cette libération suive sa voie de libération et que cette libération puisse s'accélérer, alors on peut utiliser les instruments que sont les rituels, les prières, les méditations, les invocations, les incantations, le hatha yoga ou quoi que ce soit d'autre, et même l'alchimie. À ce moment-là, on peut utiliser ces instruments car ils seront vraiment libérateurs. Mais si on ne comprend pas avant toute chose que l'on abrite un Dieu puissant, et que le stade humain est le stade de libération hors de la matière de ce Dieu, eh bien l'on pourra user d'alchimie pendant des millions d'années. On n'aboutira à aucune initiation. On ne découvrira aucune libération. Rien ne se passera. Tout simplement parce que l'énergie qui est déclenchée pendant les rituels ou pendant les méditations, pendant les ascèses ou quoi que ce soit d'autre, cette énergie ne va pas jusqu'au Dieu intérieur, permettant ainsi au Dieu intérieur d'aller vers sa libération. Ces énergies tombent simplement dans le gouffre de la personnalité. Ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'incarnations, vécues apparemment de façon ésotérique, parce que l'individu a lu dans énormément de livres, parce qu'il a pratiqué beaucoup de visualisations, répété beaucoup de mantras, pratiqué pas mal de méditations, eh bien il se trouve le cas de certains individus qui, malgré cette tendance apparemment spirituelle, se trouvent cristallisés autour de leur ego inférieur. Si bien qu'un jour, ils finissent par naître avec un orgueil spirituel absolument insupportable. Et au comble de toutes les lois spirituelles et des tendances qui avaient animé leur élan spirituel au début, au lieu de devenir un être de lumière, ils deviennent des êtres de ténèbres. Et c'est là que se fabrique le mage noir, ce n'est pas ailleurs. Le mage noir n'existe pas avant. Autrement dit, on imagine souvent le mage noir comme étant un être de petite évolution qui ne pense qu'au mal, parce qu'il n'a pas encore la chance de pouvoir soupçonner Dieu, de pouvoir faire éclore en lui une quelconque bonté ou générosité. C'est faux, absolument faux. Lorsque l'on prend un être au début de ses incarnations, il n'est pas un être méchant. Il est peut-être un être d'instinct, c'est certain, mais c'est avant tout un être naturel. Donc, quoi qu'il fasse, ce sera toujours par rapport à des exigences ou à des lois de la nature. Même quand il s'agira de tuer les membres d'une autre tribu, ce ne sera pas plus à l'encontre des lois spirituelles que, par exemple, lorsqu'une horde de lions se lance à l'assaut d'une antilope ou d'un quelconque autre animal. C'est la loi de la nature. Seulement, au bout de quelques incarnations et du développement du mental, l'individu commence à réveiller une certaine personnalité, une certaine ambition, une certaine foi, une certaine puissance aussi. Et lorsque ces désirs de libération, car c'est de cela qu'il s'agit, lorsque ces désirs de libération ne sont pas comblés, parce que l'individu ne renvoie pas l'énergie là où il faut et ne fait que absorber de l'énergie qui retombe dans son gouffre intérieur, à partir de ce moment-là, le désir de libération devient le désir d'établir